Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous approchons de la grande fête de Pâques. Et aujourd'hui, nous commençons le temps de la Passion. Nous sommes toujours dans le carême, mais dans les deux dernières semaines, qui sont de loin les deux dernières semaines liturgiques les plus importantes de l'année. Je vous rappelle que tous les catholiques ont l'obligation, pendant ce temps de la Passion, et pendant le temps qui suit immédiatement la fête de Pâques, de faire la grande lessive de printemps, une bonne confession. Éventuellement, peut-être, pour certains d'entre nous, une bonne confession générale. C'est à vous de voir, allez demander conseil à un bon prêtre qui puisse vous aider un petit peu. Il y a des changements liturgiques importants, donc il n'y a pas d'adoration publique des saints, de vénération, pardon, publique des saints pendant ce temps de la Passion. Donc les statues des saints sont recouvertes d'un voile violet dans le petit oratoire où je célèbre tous les jours. Donc j'ai couvert la Très Sainte Vierge Marie d'un voile violet, la statue de Saint Joseph aussi d'un voile violet et la croix d'un voile violet. On fait sauter le chant de joie du début de la célébration de la messe, le Judicamé. Et c'est un temps où, pendant lequel le bon Dieu donne beaucoup, beaucoup de grâce. Il faut comprendre l'esprit de ce temps liturgique. Je voudrais vous l'expliquer rapidement. C'est tout le mystère de la rédemption donc, qui va se dérouler sous nos yeux, mystère par lequel notre Seigneur Jésus-Christ meurt sur la croix le Vendredi Saint, dans sa nature humaine, pour sauver nos péchés avec sa nature divine. Il se revêt de nos fautes. Et on peut même aller plus loin, on peut dire qu'il se revêt de nos fautes comme d'un manteau. Il se fait péché pour nous, c'est ce que dit Saint Paul. Saint Paul va jusqu'à dire que notre Seigneur Jésus-Christ se fait péché pour nous. Notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, qui se fait péché pour nous. Afin de pouvoir porter en sa chair sur la croix tous les péchés des hommes et les détruire par sa mort. Donc au jardin de Gethsémani, le jeudi saint au soir, les péchés de tous les siècles, de toutes les âmes, affluent horribles, répugnants, en vagues boueuses dans l'âme très pure de Jésus qui devient le réceptacle de toute la fange humaine et l'égout de la création. C'est une expression très forte que je n'aurais peut-être pas osé prononcer moi-même. Et vient Monseigneur Gay dans son sermon pour le Jeudi Saint. Il devient le réceptacle de toute la fange humaine, l'égout de la création. Notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, qui se rend semblable à nous en tout, sauf le péché. Quel mystère, mes bien chers frères. Alors, il faut avoir le courage de penser à ces mystères et d'essayer de le vivre. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ ne nous demande pas de méditer, de contempler de loin ce mystère de la rédemption. Il ne faut pas oublier que notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas commis de péché. Il se revêt de nos péchés alors qu'il ne les a pas commis. Il devient l'égout de la création alors qu'il est parfaitement pur. Il accepte de sentir la mauvaise odeur de toutes les horreurs du monde alors qu'il est le Saint des Saints. Quel mystère! Quel mystère! On peut dire que ce mystère est celui donc de la Passion, de la résurrection du Sauveur dont l'anniversaire approche. Il est pontife, il est médiateur du Nouveau Testament. Jésus va bientôt monter sur sa croix et le sang de son sacrifice, il le présentera à son Père en entrant dans le vrai Saint des Saints qui est le ciel. Voici que resplendit le mystère de la croix où la vie a subi la mort et par sa mort nous a rendu la vie. Donc notre Seigneur Jésus-Christ se fait l'égout en quelque sorte, pour reprendre l'expression très forte de Monseigneur Gay, l'égout de la création pour que par sa mort, nous puissions ressusciter à la vie bienheureuse. Il est évident que la passion de notre Seigneur Jésus-Christ a quelque chose qui nous répulse, qui nous révulse, pardon. Quelque chose qui nous repousse, que nous repoussons plus exactement, instinctivement. Parce que justement, nous avons compris, pour reprendre cette expression qui est très forte, mais je pense qu'il faut méditer sur cette expression, puisqu'il devient l'égout de la création, nous avons une tendance, tous, moi le premier, à nous boucher le nez, à nous sauver en courant. Précisément parce que nous avons la tendance de dire « mais moi je veux rien à faire avec une puanteur pareille ». Et nous oublions que cette puanteur, c'est nous. Nous oublions que cette seconde peau du péché que notre Seigneur Jésus-Christ met sur la peau de son humanité, c'est notre peau, la peau de nos péchés. Alors, beaucoup de gens, comme les Juifs, de l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, qui attendaient un Messie glorieux, en voyant un Messie souffrant, ont fermé la porte de leur cœur. On dit que le Messie souffrant est à la justice, que le Messie glorieux est à la miséricorde. Ce n'est pas exactement vrai, parce que derrière la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, il n'y a pas simplement sa justice, il y a aussi sa miséricorde. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, innocent qu'il est, accepte de prendre sur ses épaules le poids de nos péchés. Alors nous aussi, nous sommes un petit peu imprégnés par ces idées modernes et ces idées anciennes aussi des Juifs, et nous souhaitons aussi un Messie glorieux. On est d'accord pour se précipiter à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça c'est très beau, c'est facile. Mais notre Seigneur Jésus-Christ nous demande d'aller d'abord l'aider à porter sa croix. L'aider à porter sa croix. Et nous avons bien du mal à porter la croix de notre Seigneur Jésus-Christ parce que, encore instinctivement, nous voulons un Messie glorieux et nous refusons le Messie souffrant. Et puis exactement, nous refusons de participer à ce Messie souffrant. Alors, voyons un petit peu ce que nous disent les pères de l'Église. Il y a ici un texte splendide que j'ai sous les yeux. Ne crains pas devant la face de tes ennemis. Ne crains pas devant leur face, est-il dit de notre Seigneur Jésus-Christ en la personne de Jérémie. C'est les prophètes. Je t'ai établi comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses princes, contre ses prêtres et contre son peuple. Ils combattront contre toi, mais ne te vaincront pas parce que je suis avec toi pour te délivrer, dit le Seigneur. Et c'est Saint Léon le Grand, au Matin, qui nous dit de façon magnifique, c'était la volonté de Dieu que Jésus passa par l'humiliation, la souffrance et la mort avant d'entrer dans sa gloire. Mais les Juifs, scandalisés, aveuglés par leur passion, ne voulaient qu'un Messie glorieux, scandalisés par la croix de Jésus. Ils ont rejeté leur Sauveur. C'est ainsi que Dieu les rejeta à leur tour, tandis qu'il accueille avec bienveillance ceux qui mettent leur espérance en la rédemption de Jésus et savent porter leur croix à la suite de la sienne. Si nous souffrons avec le Christ, dit saint Paul, nous serons glorifiés avec lui. L'attente de la béatitude éternelle est chose certaine et assurée pour ceux qui savent participer à la passion du Seigneur. Je répète cette phrase. L'attente de la béatitude éternelle est chose certaine et assurée pour ceux qui savent participer à la passion du Seigneur. On peut inverser la phrase en disant: la porte du paradis sera fermée pour chacun d'entre nous si nous refusons de participer à la passion du Seigneur. L'attente de la damnation éternelle est chose certaine et assurée pour ceux qui refusent de participer à la passion du Seigneur. Et comment participons-nous à la passion du Seigneur ? Bien sûr, d'abord par la liturgie de ces jours sacrés. Je conseille beaucoup à ceux qui m'écoutent Et au moins pendant ces 15 jours, ces 2 semaines du temps de la Passion, de lire bien soigneusement chaque jour les textes liturgiques de la messe du jour, si vous ne pouvez pas y assister, malheureusement, ce n'est pas toujours possible. Il faut faire encore une fois attention, j'en ai souvent parlé, mais j'ai remarqué que c'est une tendance dans les milieux cédévacantistes, encore plus peut-être chez les milieux. Aussi c'est les milieux cédévacantistes, les milieux de la tradition générale, mais surtout c'est les milieux cédévacantistes de tout mettre sur le dos des Juifs. La Passion, c'est les Juifs. La Croix, c'est les Juifs. C'est les Juifs qui ont crucifié notre Seigneur. Bien sûr, c'est les Juifs. Mais ce n'est pas que les Juifs. Eh bien, chers frères, il faut vous mettre dans la tête que ce n'est pas simplement les Juifs qui ont crucifié notre Seigneur Jésus-Christ. C'est nous! Chaque fois que nous commettons une faute mortelle, je renouvelle, dit Saint Curé d'Ars, je renouvelle sur l'autel de mon cœur le sacrifice de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Chaque fois que je commets une faute grave, je prends les fouets des bourreaux en disant « Bourreau, je pense que vous ne tapez pas assez fort, laissez-moi les fouets, je vais vous montrer comment il faut travailler. » Et on fouette notre Seigneur. Certes, les Juifs sont coupables de déicide. Mais nous aussi. Nous aussi, lorsque nous commettons une faute grave. Et on peut même aller beaucoup plus loin. Je sais que certaines personnes vont un peu grincer des dents lorsqu'ils entendent ces choses-là, et pourtant elles sont très vraies. Théologiquement parlant, elles sont vraies. Théologiquement parlant, Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, le Messie, souffre beaucoup plus d'une faute grave commise par un catholique de la tradition que par une faute grave commise par un membre de l'Église de Vatican II, ou que la même faute grave commise par un juif. Parce que les juifs ne sont pas des enfants du bon Dieu, parce qu'ils n'ont pas le baptême. Mais nous avons le baptême. Notre Seigneur Jésus-Christ souffre beaucoup plus d'être vilipendé, d'être traité comme le dernier des derniers, d'être traité encore une fois comme l'égout de la création par ceux qui sont ses amis. Et les cédévacantistes que nous sommes, catholiques de la tradition, nous sommes les amis de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prétendons, plus ou moins, plus exactement, nous prétendons être les amis de notre Seigneur Jésus-Christ. Sommes-nous vraiment les amis de notre Seigneur Jésus-Christ? Et lorsque nous avons commis un péché grave, notre Seigneur Jésus-Christ, si nous écoutons bien, va nous dire, tu es vraiment un de mes amis? Tu te présentes comme un de mes amis, tu oses te présenter comme un de mes amis, alors que tu viens de me trahir une fois de plus. Alors que je viens pour toi sur l'autel, alors que je me maintiens avec mon corps, mon sang, mon âme et ma divinité cachées sous les espèces eucharistiques dans le tabernacle de l'autel, tu m'as méprisé. On peut reprendre toutes les impropères. Donc ce n'est pas simplement le péché des Juifs, mes bien chers frères, qu'on médite en ce moment. C'est le péché de chacun d'entre nous, à commencer par le mien. Bien sûr, à la fin de cette quinzaine de la Passion, il y aura la résurrection de notre Seigneur. Et si notre Seigneur Jésus-Christ pleure des larmes de sang en voyant ses enfants qu'il enfonce par le péché grave, notre Seigneur Jésus-Christ doit exulter de voir un de ses enfants qui revient à lui par une bonne confession. Voilà pourquoi l'Église nous demande en ce temps de la Passion d'utiliser les grâces de la Passion d'abord pour faire une bonne confession au moins une fois par an, au moins à cette époque-là. La croix qui va pendant cette quinzaine est une croix de honte, va devenir une croix de gloire. Une croix de honte qui est, pour cette raison, cachée sous un voile violet. Elle va resplendir, comme couverte de pierreries extraordinaires le jour de la résurrection de notre Seigneur. Mais c'est la même croix, mes bien chers frères. La croix du Vendredi Saint, c'est la croix victorieuse de Pâques. Alors, reconnaissant en ce Messie qui souffre pour moi, un Dieu, un homme, un roi, comme les rois mages, qui donnent l'or parce qu'ils ont vu un roi en notre Seigneur Jésus-Christ, qui donnent l'encens parce qu'ils ont vu Dieu en notre Seigneur Jésus-Christ, et qui donnent la myrrhe parce qu'ils ont vu l'homme en notre Seigneur Jésus-Christ. Ne soyons pas comme ceux qui refusent la divinité, qui refusent de donner l'encens, et qui ne voient que l'humanité. Ou ne soyons pas comme ceux qui refusent l'humanité et qui ne gardent que la divinité, parce qu'ils refusent en fin de compte de donner la myrrhe. Ou ne soyons pas comme ceux qui refusent complètement le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils veulent le règne de l'homme. Est-ce que je donne vraiment l'or au roi? Est-ce que je donne la myrrhe à l'homme? Est-ce que je donne l'encens au vrai Dieu? Est-ce que je sais regarder ce Messie souffrant et je sais voir cette personne qui est en train de mourir sur la croix et qui va dire des paroles incompréhensibles pour nous, comme celle-ci par exemple? Mon Père, pourquoi m'avez-vous abandonné? Comment Dieu peut-il dire une chose pareille? Comment l'homme Dieu, comment le Fils de la Très Sainte Vierge Marie peut-il dire qu'il a été abandonné par son Père? Voilà pourquoi tant de personnes qui ont refusé cette phrase, qui ont compris de travers cette belle phrase que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a prononcée du haut de la croix. Alors ils se sont dit, mais si notre Seigneur dit une chose pareille, « mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Alors, il n'est pas égal au Père. Et pourtant, notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Et pourtant même, dans les affres de la passion, des tortures de la passion, notre Seigneur Jésus-Christ est toujours Dieu et a la vision béatifique. Comment est-ce possible? Méditez sur le mystère de la rédemption et vous aurez la réponse. C'est ça que dit Saint Léon, c'est ça que dit Saint Paul, c'est ça que disent tous les pères. Par sa mort, il nous a rendus à la vie. Mais nous aurons la force de prendre la passion, la croix de notre Seigneur Jésus-Christ sur nos épaules, dans la mesure où nous avons en nous une vertu spéciale qui va nous donner la force de prendre la croix. Cette vertu spéciale qui nous donne la force de prendre la croix sur nos épaules, mes bien chers frères, c'est la vertu de charité. Voilà pourquoi l'Église, qui sait très bien qu'on ne peut pas porter la croix sans la charité, demande à tous ses enfants de faire une bonne confession pendant le temps, au moins le temps de la passion, afin que justement nous retrouvions la charité, et en ayant retrouvé la charité, que nous retrouvions la force de suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Même si vous n'avez pas beaucoup de temps, beaucoup de gens prétendent ne pas avoir de temps. Pourtant, quand il le faut pour faire des bêtises, on trouve toujours du temps. Alors si on trouve du temps pour faire des bêtises, trouvons aussi du temps pour méditer sur la passion. Je vous conseille donc beaucoup, au moins, de lire les magnifiques prières du Vendredi Saint, la messe des présanctifiés, les impropères, la passion selon Saint Jean. Et même si vous avez un peu plus de temps, obligez-vous au moins pendant ces 15 jours de la passion à lire un petit peu tous les jours, lentement, très lentement, la passion de notre Seigneur. Il y en a 4. Lisez-les lentement, les unes après les autres, les méditant doucement, en essayant d'imaginer la scène devant vous. Pour certaines personnes, cela peut aider. Beaucoup de gens, beaucoup de nos fidèles ont vu ce film, le film de Mel Gibson sur la passion de notre Seigneur. Il y a des choses très belles dedans. Et vous pouvez peut-être le revoir pour concrétiser en quelque sorte la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ne pas dire comme les imbéciles qui n'ont rien compris, la passion c'est les Juifs, c'est pas nous. Non, la passion c'est nous. Et la passion c'est plus nous que les Juifs, parce que nous sommes plus coupables que les Juifs qui ne sont pas baptisés, qui ne sont donc pas des enfants du bon Dieu. Nous sommes enfants de Dieu par le baptême. Donc notre Seigneur Jésus-Christ souffre beaucoup plus de prendre un coup de bâton d'un de ses enfants, que de prendre un coup de bâton d'un étranger qui n'est pas un de ses enfants. Cependant, Dieu, dans sa miséricorde, n'a qu'un désir, réunir tous les hommes, ceux qui sont baptisés et ceux qui ne sont pas baptisés, afin que tous, par le baptême, par la vertu de charité, puisse un jour entrer dans la gloire du ciel. C'est ce qu'il veut. Ah, mes bien chers frères, comme il nous faut méditer sur ces choses. Et si nous méditions plus souvent peut-être sur ces magnifiques vérités, alors nous serions peut-être capables de comprendre d'autres choses. Je vous donne une très belle prière qui peut aussi vous aider. Ô Dieu, dont la miséricorde est sans mesure et le trésor de bonté infinie, nous rendons grâce à votre divine bienveillance pour les dons que nous avons reçus et nous vous conjurons de daigner toujours dans votre bonté à exaucer nos prières, ne point nous abandonner et nous préparer aux récompenses éternelles. Comment nous préparons-nous à ces récompenses éternelles, mes bien chers frères ? Nous nous préparons à ces récompenses éternelles tout simplement en méditant sur la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est par la méditation sur la croix de notre Seigneur Jésus-Christ que nous pouvons obtenir cette proximité avec notre Seigneur Jésus-Christ. Sans la croix, il n'y a aucun moyen de garder la charité. La charité, c'est la croix. Donc il faut vraiment demander au bon Dieu cette grâce extraordinaire. On peut résumer cela par une autre prière qui est certainement peut-être une des plus belles prières d'oraison qu'on trouve dans les oraisons du missel. C'est l'oraison pour la messe votive pour la propagation de la foi. Elle est tellement belle, il faut la lire à genoux. Ô Dieu, qui voulait que tous les hommes parviennent au salut et à la connaissance de la vérité, daignez envoyer des ouvriers dans votre moisson et leur donner d'annoncer avec confiance votre parole, afin que votre doctrine se répande et soit glorifiée et que toutes les nations puissent vous connaître, vous, le seul vrai Dieu et celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ, votre Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec vous en unité du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Vous voyez, mes bien chers frères, tout commence par la charité de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans la charité de notre Seigneur Jésus-Christ, rien ne peut être obtenu pour nous. Voyez, ô Dieu, notre protecteur, regardez la face de votre Christ qui s'est livré lui-même en rédemption pour tous. Et faites que de l'Orient à l'Occident, votre nom soit glorifié parmi les nations et qu'en tout lieu, on sacrifie et l'on offre à votre nom l'oblation pure. Par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Nourris du don de notre rédemption, nous supplions, Seigneur, que par ce secours du salut éternel, la vraie foi puisse toujours se propager. Alors, mes bien chers frères, si peut-être la honte nous prend à cause de la gravité de nos péchés, à cause du nombre de nos péchés, à cause de la profondeur de nos défaillances passées, alors, mes bien chers frères, allons chercher le secours de notre Sainte Vierge Marie. Elle est au pied de la croix. Elle n'est pas rédemptrice, elle est co-rédemptrice. Elle participe à la rédemption de notre Seigneur pour nous aider à participer derrière elle à cette même rédemption. Répétons souvent cette prière avec elle au pied de la croix. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ayons recours au cœur immaculé de Marie afin d'atteindre le cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ et par le cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ, entrer dans la béatitude éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.